كلمات من كل قلبي لكل شهيد قتل في بلدي سوريا.
On est par téléphone avec Philippe Vanesson du blog Passeur d'Hospitalité. C'est un blog qui rend compte de la situation des différents camps de migrants dans le Nord et dans le Pas-de-Calais et qui le fait de l'intérieur. Philippe Vanesson, le démantèlement du bidonville de Calais a été annoncé par François Hollande et son gouvernement, accompagné de solutions de relogement dans des centres d'accueil éparpillés dans toute la France. Alors comment avez vu cette annonce?
D'une part, c'est une répétition complète de ce qui s'était mis en place à la fermeture du centre de Sangatte, en fait. Pendant plusieurs années, jusqu'en 2006, il y a eu plusieurs opérations qui s'appelaient les opérations Ulysse, qui consistaient à arrêter les gens, vider les campements, et emmener les gens vers des centres un peu partout en France où ils étaient censés soit demander l'asile, soit demander le retour volontaire, soit être expulsés. Ce qui est la présentation du dispositif par François Hollande et par Bernard Cazeneuve. Donc on est vraiment dans la répétition, sauf que cette fois-ci c'est à l'échelle de 10 000 personnes et non plus de quelques dizaines ou quelques centaines juste après Sangatte. Et effectivement, du coup, on a un dispositif policier assez ahurissant qui va se mettre en place avec plusieurs milliers de CRS, un commissariat mobile qui va être installé là pour examiner soi-disant la situation individuelle des personnes, mais on voit mal un travail à la chaîne à cette échelle-là, qui sont individualisés et puis distribuer des obligations de quitter le territoire français aux gens qui refuseraient de monter dans les bus. En tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Et puis les autres personnes qui prendront les fameux bus pour aller dans des centres qui ont été ouverts à grande vitesse. Donc on peut se poser la question assez légitimement de la qualité de l'encadrement, la qualité de l'accueil qui sera mis en place là-bas. Et puis une grosse impasse, c'est que ces structures ne sont pas des structures pour les mineurs. Il y a plus de 1000 mineurs non accompagnés dans le bidonville, donc eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? C'est pas clair du tout.
Ce que vous nous dites en nous disant que c'est un peu le même processus que lorsque Sangatte a été démantelé, c'est que finalement, ça ne va servir à rien, la situation va redevenir telle qu'elle dans quelques années, voire quelques mois.
Oui, voire quelques semaines, voire quelques jours. Enfin, les derniers gros démantèlements, on a dispersé les gens. Alors, ils n'avaient pas forcément été emmenés loin, c'était plutôt dans la région, mais les premiers sont revenus le soir du démantèlement. D'où quelque chose qui a l'air de s'accélérer, enfin de devoir se faire dans une durée courte. Les dernières annonces, c'était 2000 personnes évacuées par jour, donc ça fait à peu près 5 jours pour vider le bidonville. Sachant que l'effet d'annonce fait aussi qu'il y a des gens qui partent d'eux-mêmes avant. Donc voilà un peu comment ça se profile. Mais effectivement, il y a la question des gens qui vont pas vouloir partir et qui vont se disperser dans l'agglomération. Et très vite, la question des gens qui vont revenir parce que leur choix n'était de toute façon pas de rester en France, qu'ils ont été forcés de monter dans des bus et qui reviennent à leur projet initial.
Le calendrier prévu, c'est quand? C'est la semaine prochaine, c'est ça?
Alors, il y avait des fuites, mais jamais complètement officialisées par le gouvernement par rapport au 17. Il semblerait que ce serait pas forcément le 17. En tout cas, il y a eu une annonce hier de Manuel Valls, pas très précise, en fait, sur les dates. Ce sera peut-être plus tard.
Qu'est-ce qui force ce démantèlement maintenant? C'est le calendrier électoral?
Oui, très clairement. Enfin, juste avant les élections régionales, en fait, le conseil régional qui était propriétaire du terrain l'a vendu au conservatoire des sites du littoral, organisme d'État, qui l'a mis à disposition de la préfecture pour 6 ans, pour ce but de servir de lieu où les exilés pourront rester. Donc on a l'impression que le terrain a été sécurisé et puis qu'il l'a été dans la durée, juste après des élections que le Parti Socialiste savait devoir perdre. Par contre, l'État a toujours annoncé depuis le début de l'année que le bidonville serait démantelé. Vraiment, les choses se sont accélérées là à la rentrée avec les différents articles du Figaro sur le nombre de personnes, le blocage de l'autoroute par un certain nombre d'acteurs sociaux et économiques. Il y a eu cette protestation, cette montée en puissance médiatique et le gouvernement, au lieu d'affirmer une position raisonnable qui était de dire on va essayer de gérer les problèmes dans la durée, ben, à embrayer finalement sur la protestation et puis détruit tout dans la catastrophe. A priori, c'est pas seulement le bidonville d'ailleurs, c'est aussi le camp de containers et le centre Jules Ferry qui devraient disparaître. Des structures qui ont été financées, mises en place par l'État.
Une des conséquences, vous en avez parlé, c'est que certains migrants commencent à partir. Et puis il y a aussi ceux qui veulent passer à tout prix et qui affrontent des grands dangers. Il y a eu à nouveau une personne morte en essayant de passer, c'est ça?
Oui. Il y a eu plusieurs accidents autour du week-end dernier, avec plusieurs hospitalisations, un décès. Effectivement, les gens essayent toutes les nuits, parfois de jour, essayent de passer à tout prix avant que le bidonville disparaisse. Ça fait monter la tension de manière extraordinaire et ça rend aussi les gens beaucoup plus dépendants des passeurs à partir du moment où ils ont un peu d'argent pour les payer. Donc voilà, on a à la fois les gens qui n'ont pas d'argent, qui sont dans des tentatives désespérées, et puis de l'autre, les passeurs pour qui c'est une aubaine en termes d'argent, quoi.
La position des associations humanitaires, quelle est-elle majoritairement? Parce que il y a ce démantèlement du bidonville. Le bidonville, c'est pas la solution miracle pour les associations. En même temps, il y a cette proposition de relogement. Vous en avez parlé, c'est largement insuffisant. Puis il y a encore de nombreuses questions. Mais comment les associations voient tout cela?
Ça a été un espèce de désarroi et tout le monde a un peu réagi de manière assez contradictoire jusqu'aux dernières annonces où de toute façon le démantèlement s'annonce tellement un démantèlement policier sans réel projet pour les personnes que tout le monde se retrouve pour le contester. Donc là, il y a un référé qui a été déposé contre la décision d'expulsion par tout le monde. Mais les positions étaient loin d'être unies il y a seulement une semaine. Il faut voir que pendant des années, en fait, ça a été une demande des associations qui est un lieu où les exilés puissent se poser sans risquer d'être expulsés. Et en fait, l'expulsion des différents campements qui existaient jusqu'à mars-avril 2015 un peu partout dans Calais, c'est fait avec un regroupement sur le site actuel parce que les associations ont aidé à l'expulsion et parce qu'elles ont cru que quand les autorités disaient que les exilés seraient tolérés sur ce terrain, ben il n'y aurait pas d'expulsion. Du coup, il y a eu un première grosse remise en cause avec l'expulsion de la partie sud il y a 6 mois. Et là, ça a été une espèce de panique. Est-ce qu'on va arriver à négocier quelque chose avec l'État ou est-ce que la situation est complètement désespérée et qu'il n'y a pas de dialogue possible? Et il y a vraiment eu des attitudes très très différentes et des réactions très très différentes de la part des différentes associations par rapport à ce qui est en train de se passer en fait.
On est toujours en compagnie de Philippe Vanesson du blog Passeurs d'Hospitalité. Vous avez parlé de référés, hein, c'est utiliser le biais judiciaire pour essayer d'annuler peut-être le démantèlement, ou au moins de le retarder.
Oui, tout à fait. Ce qui a marché dans un certain nombre de cas. Au moins au niveau des tribunaux de première instance. Ça a marché à Lille avec l'expulsion du jardin des Hauts-Lieux, où principalement des mineurs vivent dans un parc public à Lille, et où le juge a refusé l'expulsion en disant qu'il n'y avait aucune solution proposée et que ça ne pouvait amener qu'une situation pire. Même réaction du juge de Béthune par rapport à l'expulsion du campement de Noranfonte, qui est plus à l'intérieur des terres. On vient d'avoir le résultat du jugement et c'est pareil. L'expulsion, en fait, ne fera que précariser la situation des personnes Et donc, il n'y a pas d'urgence à le faire pour un campement qui dure depuis des années. Et il refuse l'expulsion sans solution de relogement. Donc, il est possible qu'il y ait une décision analogue pour le bidonville de Calais.
Oui, c'était la bonne nouvelle de la semaine à Noronfont. Un petit point aussi sur les autres camps hein, qui existent dans la région, notamment du côté de Grande-Synthe, où là, le démantèlement s'accélère, c'est ça?
Oui, à Grande-Synthe, il y a eu... quand l'État a accepté de financer le camp de réfugiés qui avait été créé contre sa volonté, il y a eu un changement d'association gestionnaire et surtout un changement de règle du jeu. Et la règle du jeu était de ne pas admettre de nouvelles personnes dans le camp, sauf cas humanitaire, et de démonter les abris au fur et à mesure que les gens partaient. Alors il y a eu un démontage partiel qui a été fait, mais dans les faits, l'association gestionnaire refusait les nouveaux, mais les nouveaux entraient quand même dans le camp, et du coup c'est les passeurs qui géraient la question de l'admission des nouveaux et de la répartition des abris, ce qui était une situation assez malsaine, mais qui finalement permettait à l'État de faire semblant de ne pas voir que la population du camp réaugmentait. Et ces derniers temps, on a des démontages d'abris, on a des expulsions de gens qui étaient dans le campement, ils sont mis dehors, et on a eu, comme à Calais, une descente de police par rapport aux petits commerces, vente de cigarettes, vente de nourriture qui s'étaient installés dans le camp, avec des arrestations, comme ça avait été le cas à Calais. Donc on a l'impression qu'on est aussi dans une logique de toute façon de réduction de la capacité d'accueil, et puis à moyen terme de fermeture. Ce qui veut dire qu'il y a des campements à court terme qui vont se réinstaller ailleurs dans le Dunkerquois.
Vous en avez parlé, hein, qui dit démantèlement, dit une forme de violence, hein, plus ou moins directe. Il y a déjà des stratégies, notamment de la préfecture du Pas-de-Calais, pour éloigner les témoins, associations, journalistes, etc.
Oui, vu les effectifs de police, la préfecture a le moyen de boucler, de contrôler l'accès au bidonville. Et du coup, il a été demandé aux associations de fournir une liste nominative des bénévoles qui sont susceptibles de venir sur le bidonville pendant l'opération policière, donc qui durera plusieurs jours. Ce qui veut dire que les gens qui ne seront pas sur les listes n'auront pas accès, que ce soit des journalistes ou que ce soit des membres d'associations ou d'autres témoins qui ne sont pas membres des associations officielles, en tout cas reconnus par le gouvernement. Donc du coup, ce sera difficile d'être présent sur le terrain. Et sur la destruction de la partie sud, ce qu'on a vu, c'est que les journalistes, connaissant mal le terrain en général, sont restés derrière le cordon de police et ont été briefés par le sous-préfet. On a su ce qui se passait par des images et par des SMS ou des posts sur Facebook qui étaient envoyés par des gens qui étaient à l'intérieur du bidonville, en fait, et qui voyaient la réalité des opérations. Et ce sera beaucoup plus difficile cette fois-ci.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, les gens qui nous écoutent et que ce démantèlement désole, afflige? Il y a une pétition, il y a des choses prévues, peut-être d'éventuelles manifestations?
Pour l'instant, ça se prépare un peu dans le désordre. Mais il y a de toute façon suivre l'information et relayer l'information sur ce qui se passe réellement au-delà du discours officiel. On peut très bien imaginer la manière dont ça va se passer, c'est-à-dire on a un périmètre qui est bouclé, les journalistes peuvent pas entrer, il se trouve qu'il y a des médias qui vont envoyer des gens sur place, donc ça coûte de l'argent, donc ces gens vont devoir ramener de l'image, de l'information, etc. Et on va avoir des circuits organisés par la préfecture pour les journalistes, pour leur montrer ce que la préfecture a envie de leur montrer. Donc il est important qu'il y ait d'autres informations qui circulent auprès du public. Alors c'est à nous sur place après de mettre cette information à disposition, mais c'est un enjeu essentiel pour comprendre ce qui se passe vraiment. Après ça dépend où on habite, mais on pense qu'il va y avoir des contrôles aux faciès et des arrestations dans les gares pour les gens, pour éviter que les gens remontent, les gens qui seront montés dans les bus qui auraient été envoyés à l'autre bout de la France et qui reviendront sur Calais. Et d'autre part, la moitié des effectifs policiers, en fait, ne seront pas sur l'opération de destruction du bidonville proprement dite, mais seront à circuler dans le Calaisis pour empêcher les gens de se réinstaller. Et c'est important, là aussi, qu'il y ait des gens qui circulent, qui soient témoins de l'action de la police, des éventuelles violences, des éventuelles expulsions illégales, des éventuels contrôles aux faciès, etc.
Philippe Vanson, merci. Je rappelle que ben justement vous faites ce travail aussi d'informer les gens d'une autre manière que le font les médias de masse, notamment en proposant régulièrement des articles hein, sur votre blog Passeur d'Hospitalité. Il y a aussi des éléments radiophoniques hein, qui sont diffusés par le biais de ce blog.
Oui, Philippe. Et j'oubliais de dire quelque chose sur ce que les gens peuvent faire. Il n'y aura probablement pas de manifestation avant à Calais. Par contre, il y a un appel à ce que les gens manifestent partout en France, là où ils sont, et fassent savoir leur opposition à ce qui est en train de se passer. Enfin, c'est quand même la destruction de l'équivalent d'une petite ville de 10 000 habitants et le déplacement forcé de sa population, ce qui ne s'est pas vu en temps de paix depuis je ne sais pas quand. Est-ce qu'on ne s'est pas vu en France depuis la guerre d'Algérie, en fait?
Modar jonuri deda nuri deda modar marat opti miram bosaingar modar modar.
Philippe Vanesson du blog Passeur d'Hospitalité, joint par téléphone hier matin. Je vous signale aussi qu'à Arras, plusieurs assos se mobilisent pour venir en aide aux migrants. C'est le cas notamment de l'asso Arras Solidarité Réfugiés. Si vous voulez vous joindre à l'action de cet asso, sachez que la prochaine réunion a lieu ce lundi 17 octobre à 18h30 à la Maison Saint-Va, c'est rue Damien à Arras. Pour illustrer musicalement ce sujet, on écoutait de la musique du projet de Calais Sessions. C'est un projet qui réunit des volontaires, des musiciens britanniques et puis des musiciens du camp de migrants de Calais dans un petit studio monté sur place. Donc ils enregistrent de la musique, la vendent et utilisent ensuite les fonds récoltés pour de l'aide humanitaire. Et en même temps, ça rend compte surtout peut-être de la richesse humaine, culturelle et musicale du bidonville de Calais. Ça s'appelle The Calais Sessions. خدا جانم مرا رنجور کردی مادر مادرم را پیشم دور کردی مادر 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 جانم دو چشم روشنم بود مادر دو چشم روشنم را کور کردی مادر 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 جان نوری دیده نوری دیده مادر مرا تو آب دی میرم با سنگر مادر مادر از دی روزگار سختی کشور مادر بچه در جگر از داغ خنجر مادر مادر, مادر.